Nous allons poursuivre avec une discussion sur le logiciel libre Jamy, et je laisse pour cela la parole à mon collègue Frédéric Couchet.
Eh bien merci Étienne, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous allons parler pendant quelques minutes, une petite vingtaine de minutes de téléphonie libre, de messagerie instantanée libre, avec nos invités du jour, Cyril Béraud et Christophe Villemer de la société Savoir-Faire Linux. Donc je crois que Cyril et Christophe sont avec nous. Bonjour Cyril, bonjour Christophe.
Bonjour Frédéric.
Bonjour Frédéric.
Alors, ils sont tous les deux là, ça nous fait très plaisir de vous avoir en direct, je suppose, depuis Montréal, mais vous allez nous expliquer ça. Donc déjà, avant de commencer, Jamy, peut-être quelques mots sur la société Savoir-Faire Linux. On va peut-être Cyril.
Bonjour la France. Moi, je suis confiné comme nous tous à Val-David, un petit village au nord de Montréal, et on travaille à distance. Il faut dire que dans le logiciel libre, on est quand même bien outillé pour ça. Donc c'est pas simple, mais on y arrive bien. Alors Savoir-Faire Linux, c'est une entreprise de services en logiciel libre, je dirais très très classique dans sa forme. On existe depuis 20 ans. On est basé à Montréal, et puis on a une petite filiale également à Rennes, dont Christophe pourra s'en occuper, parce que c'est Christophe qui a poussé cette aventure française qui se passe très très bien. Christophe, peut-être tu peux en dire deux mots.
Oui, un petit mot aussi plus généralement sur Savoir-Faire Linux. Ça fait 20 ans qu'on existe, comme a dit Cyril. D'abord, on est très fiers parce que 20 ans, c'est toute une aventure. Et puis Savoir-Faire Linux, on est toujours... C'est toujours un acteur important aujourd'hui de l'innovation logicielle libre, et puis ça nous force à nous réinventer. Et aujourd'hui, finalement, la crise qu'on vit tous, elle pousse aussi un petit peu, elle accélère en fait notre transition vers notre offre de service qui est poussée aujourd'hui vraiment vers l'industrie 4.0. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offre, ce qui est au cœur de notre activité, notre offre de service, c'est principalement tout ce qui est l'ingénierie logicielle, l'ingénierie produit, les systèmes embarqués, et c'est précisément l'activité de notre centre d'expertise qui est basé à Rennes en France, donc qui est installé à Rennes depuis 2 ans, même si notre filiale existe en France depuis 2014, et qui va très bien parce qu'elle est au cœur de l'innovation de l'IoT et des systèmes embarqués qui massivement sont basculent sous Linux. Donc voilà, aujourd'hui c'est une petite équipe, c'est 4 personnes, et on recrute. Donc j'en profite pour passer l'info à nos auditeurs sur notre site. On a des postes à Rennes en système embarqué.
Bah écoute, merci pour cette présentation. On va préciser que IoT, je suppose que c'est l'internet des objets. Et le site donc, de Savoir-Faire Linux, c'est savoirfairelinuxtoutattaché.com. Concernant le nom Linux, je renvoie à la chronique du début de l'émission de Véronique Bonnet, mais on va pas épiloguer plus en avant, vu que Véronique en a parlé en début d'émission. Donc là, on va parler de Jamy. J'ai l'impression qu'il y a un petit écho. Voilà, c'est peut-être parce que quand l'un des autres micros est activé. Donc l'idée de la présentation aujourd'hui, c'est un petit peu de parler donc d'un des projets phares de Savoir-Faire Linux, dans lequel il y a beaucoup d'innovations. Alors, on va pas rentrer dans tous les détails des innovations techniques, mais il y a quand même pas mal d'innovations. Donc Jamy, logiciel libre de téléphonie et de messagerie instantanée. Comment vous présenteriez Jamy avec les principales fonctionnalités à la fois pour le grand public et aussi pour les entreprises, car je crois que ce sont les deux publics cibles, et collectivités aussi sans doute, de Jamy. Qui veut commencer?
Alors, c'est toute une histoire et c'est toute une épopée de Jamy pour Savoir-Faire Linux. Je dirais que ça, même Jamy trouve ses racines dans la fondation même de Savoir-Faire Linux il y a peut-être 18 ans. Jérôme Oufella, qui est le troisième partenaire de Savoir-Faire Linux, m'avait rejoint à Montréal, il venait de Marseille. Moi, j'avais dans l'idée qu'on pouvait pas être une entreprise de services en logiciel libre si nous-mêmes on participait pas à l'écosystème du libre. On était sur le marché, mais on devait être aussi dans le contributif et dans les communautés. Jérôme, à l'époque, m'avait dit, écoute, il y a la voix sur IP, les communications sur Internet. C'était il y a 20 ans, hein, c'était pas évident à l'époque. Et on était parti sur un logiciel qu'on avait développé qui s'appelait SFL Phone, qui avait gagné en réputation. C'était un projet assez modeste, un projet SIP, de téléphonie SIP, juste pour Linux. Et bon gré mal gré, au fil des années, on avait développé ce logiciel en recherche et développement. Et ça nous avait permis d'acquérir toute une expertise en ingénierie logicielle. Et voilà, et arrivé à la fin des années 2012, 2013, finalement le projet a été abouti, je savais plus trop quoi en faire, comment le faire évoluer, comment apporter de la valeur, et est arrivé l'affaire Snowdown. En fait, c'est arrivé plusieurs choses. D'abord l'affaire Snowdown et l'appel de Richard Stallman à la communauté, il nous faut absolument une alternative Skype ouverte et libre. Ça c'était un premier point. Parallèlement à ça, c'était un peu une histoire personnelle. Là, je m'excuse d'être un petit peu narcissique. Mon fils avait fini ses études à Montréal, avait passé son bac, était parti en Suisse faire son école d'ingénieur à l'EPFL. On avait perdu un petit peu de vue, on se voyait comme ça à Noël pendant les fêtes. Et un jour, on se retrouve en Bretagne et on se met à discuter. Il me raconte toutes ces histoires et il me parle de ses systèmes distribués. Il a l'intention de faire des jeux avec son cousin basés sur les systèmes distribués. Les systèmes distribués, c'est des systèmes informatiques. Là, je m'adresse au grand public qui permettent de fonctionner sans serveur ou sans infrastructure sur Internet. C'est ce qu'on appelle les DHT, les Distributed Hash Table. C'est le mécanisme qu'on trouve derrière le partage de torrents, par exemple. Et tout ça, on discute. Moi, je suis avec SFL Phone, je ne sais pas trop quoi en faire. Adrien me parle de ces histoires distribuées. Richard Stallman lance un appel à la communauté pour un Skype ouvert et libre. Et tout d'un coup, je me rends compte que sur la table, on a tous les éléments, peut-être pour faire quelque chose de très innovant. Et c'est ce qui lance un petit peu Jamy. Ça va commencer en 2013-2014, tout doucement. Et c'est à partir de 2015 où on se rend compte qu'on a une technologie vraiment innovante. On est capable de créer des systèmes distribués extrêmement réactifs. Enfin, les problèmes distribués avaient, à l'époque en tout cas, étaient limités par la faible capacité de temps de réponse. Vous voyez, si vous téléchargez des torrents, ça va prendre plusieurs minutes avant d'aller chercher les nœuds qui peuvent fournir les services que vous recherchez. Là, on a trouvé une mécanique qui nous permet d'aller très très vite, et on développe d'abord la couche basse, c'est ce qu'on appelle OpenDHT, qui est un projet qu'on trouve sur GitHub, qui fonctionne très très bien, qui est un système distribué qui permet de localiser à travers le monde des interlocuteurs sans passer par un serveur central. Donc il y a vraiment en termes d'architecture une petite innovation, en tout cas à l'époque. Et c'est à partir de là qu'on se met à développer, qu'on développe au fur et à mesure le projet. On est, je vais vous dire, très ambitieux. Moi, j'achète cash ce que me dit Richard Stallman. On veut couvrir toutes les plateformes, que ce soit les plateformes propriétaires type Microsoft, Mac, mais les plateformes mobiles, Android, iOS, etc. Donc on va se lancer dans ce développement, et je crois, de mémoire, c'est à partir de 2016 ou fin 2016, début 2017 qu'on commence à avoir une technologie qui commence à fonctionner.
D'accord, on va revenir sur certains points en détail. J'ai juste précisé, donc, pour les personnes qui écoutent, que les révélations Snowden, c'est donc ce 2013. Tu as cité le PFL, de mémoire, c'est l'école polytechnique qui est en Suisse. Alors, je ne sais plus si c'est à Zurich ou Lausanne.
Oui, c'est Lausanne.
Alors, c'est Lausanne. Voilà. Et on va revenir tout à l'heure sur OpenDHT, parce que c'est ce que vous avez développé, et c'est la partie notamment annuaire, et c'est ce qui fait partie des spécificités, en fait, quand on va parler un peu des spécificités de Jamy. Outre l'aspect logiciel libre, effectivement, il y a l'annuaire décentralisé, il y a aussi le chiffrement de bout en bout dont on parlera aussi un petit peu. Mais déjà, commençons par d'un point de vue usage. Aujourd'hui, on voit bien d'où ça vient, en tout cas, les racines de ce projet, parce que les révélations Snowden, on rappelle que c'est le lanceur d'alerte de la NSA. Richard Stallman, dont tu as parlé, c'est le fondateur du projet du logiciel libre, enfin, le mouvement du logiciel libre et du projet GNU. D'ailleurs, une petite question en passant, je pourrais la passer après. Le projet s'appelle Jamy, pourtant c'est un projet qui est officiellement dans le projet GNU, donc je suppose que c'est quelque chose qui était important pour vous. Donc, pour quelles raisons vous avez souhaité que ce projet fasse partie intégrante du projet GNU, et est-ce qu'il faut dire finalement Jamy ou GNU Jamy?
Ah, c'est une bonne question. Au fil du temps, je commence à dire GNU Jamy systématiquement. Ce serait pas une obligation. Alors, Richard Stallman, tu sais, habite à Boston. La Free Software Foundation a son siège social là-bas. Boston, Montréal, c'est tout à côté. Richard parle parfaitement français, donc c'est quelqu'un qui vient nous visiter très régulièrement à Montréal pour rencontrer la communauté du libre, pour faire des conférences. C'est quelqu'un qui est très apprécié ici. Et moi, je suis, donc c'est quelqu'un que je connais depuis pas mal d'années. Bon, moi, je suis dans le côté business, la Free Software Foundation, est toujours un petit peu méfiante de tout ce qui touche à l'argent, mais néanmoins on se côtoie et on échange. Et j'apprends qu'il vient à Montréal, je vais le voir, je l'invite à déjeuner et je lui dis que je souhaite que ce projet soit soit un projet GNU. Pourquoi ? C'est la première question qu'il va me poser et je vais lui dire parce que c'est un logiciel qui est sensible politiquement. Je pense que j'ai sur la table les éléments technologiques pour livrer la marchandise. Par contre, j'ai besoin de protection. Et il me répond tout de suite, écoute, c'est la seule bonne réponse. Il me dit oui tout de suite. Donc c'est un logiciel qui a une dimension politique évidente. Et c'est certain que on voit la pression qu'ont les autres acteurs, hein, de ce type de logiciel. Et être protégé et que ce logiciel soit protégé par la communauté du logiciel libre était pour moi presque une nécessité. Et puis pour l'avenir même du projet, pour la pérennité du projet, ça me paraissait important.
D'accord, merci. Alors, on va parler un petit peu justement, donc on va revenir sur donc les fonctionnalités et les cas d'usage classiques, parce que j'ai dit en introduction, c'était un logiciel de téléphonie et de messagerie instantanée, mais il y a d'autres fonctionnalités. Peut-être Christophe, tu me faire un petit tour d'horizon rapide des principales fonctionnalités de Jammy et des cas d'usage, et déjà rappeler que Jammy, c'est pas une application web, hein, c'est une application qu'on installe sur ordinateur ou téléphone.
Absolument. Jammy, c'est un client, donc qui va être téléchargé sur son PC ou sur son appareil mobile. Donc Jammy, ça aussi des fonctions vidéo, évidemment. Donc c'est vraiment un outil de communication qui fait chat, qui fait appel audio et puis appel vidéo. Et c'est aussi un client SIP. Donc qui permet
d'avoir. Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est qu'un client SIP ?
Alors un client SIP, c'est-à-dire c'est un client qui va permettre de se connecter sur les messageries téléphoniques de type Astérix, donc sur les réseaux téléphoniques IP.
Voilà, c'est l'un des supports, c'est le protocole de support de la plupart de la voix sur IP sur Internet en fait. Donc ce qui rend Jammy compatible avec beaucoup de choses sur Internet en fait.
Voilà, exactement. Et donc ça a vraiment une fonctionnalité comme un Skype, comme ce que vous connaissez, comme un Telegram pour la partie chat. Ça intègre l'ensemble. Aujourd'hui, nos limitations sont des limitations qui sont liées au réseau pair à pair, sur le fait que donc on offre une expérience en fait extrêmement bonne en qualité audio et vidéo. Mumble qu'on utilise là offre une expérience audio extraordinaire, mais tout le travail d'ingénierie et de recherche et développement de Symfony Linux s'est aussi projeté dans la qualité audio et vidéo de Jammy. Donc on appelle un pour un principalement. On est capable de faire du regroupement de visioconférence à mais on ne recommande pas de le faire à plus de 4-5 pour des éléments techniques liés à l'architecture de pair à pair, qui fait que la personne qui va initier la téléconférence à plusieurs va devoir héberger sur son ordinateur ou sur son téléphone, mais plutôt sur son ordinateur, les 3 ou 4 ou 5 flux vidéo. Oui. Et donc d'être doté d'une très bonne bande passante et puis d'une bonne ressource matérielle.
Ça c'est un point important effectivement, parce que ça rejoint la problématique, le choix de la décentralisation qui fait qu'il y a la multiplication des flux, et aussi un point important je crois dans Jammy, si j'ai bien compris, c'est que c'était du chiffrement de bout en bout, donc de pair à pair, ce qui fait qu'effectivement ça aussi multiplie les flux et ça peut amener de la possible saturation de la connexion. Donc toi tu confirmes qu'il y a vraiment du chiffrement de bout en bout au niveau de Jammy, et non pas un chiffrement partiel comme il peut exister dans d'autres solutions.
Absolument, c'est un chiffrement bout en bout. On utilise la dernière version de TLS qui est sortie à la fin de l'année dernière, donc on est vraiment au goût du jour. Et comme il n'y a aucun serveur de relais, la communication passe uniquement de l'appareil à l'autre appareil à travers les réseaux. Donc c'est chiffré vraiment de votre appareil à l'appareil à votre correspondant. Et c'est pour ça que les cas d'usage, tu parlais des cas d'usage, Frédéric, les cas d'usage qu'on vise, et on reviendra sur la question de essentiel de Jamie, qui est un outil de communication qui préserve vraiment les données et on dit la privacy, mais la vie privée, on va dire, des utilisateurs, puisqu'il n'y a aucun échange de données. On pourra y revenir. Le cas d'usage est vraiment un cas d'usage en fait de communication sensible également entre deux personnes. Et donc on voit qu'aujourd'hui on a des médecins qui, dans le cadre du confinement, réalisent des consultations à distance avec Jamie, par exemple. Mais ça peut être, c'est aussi des avocats. Donc, tout ce qui va, c'est pour ça que Cyrine disait que c'est un projet qui est sensible, parce qu'effectivement, à partir du moment où on parle de communication chiffrée, on rentre dans un monde qui est particulier.
Oui, tout à fait. Et donc, on retrouve les cas d'usage que d'autres personnes peuvent connaître avec des outils équivalents, donc la gestion de contact. Une des forces de Jamie aussi par rapport à d'autres solutions qu'on a pu évoquer dans l'émission, c'est qu'on peut s'appeler directement, en fait, hein, en contact direct. Vous recherchez, par exemple, je recherche Christophe Wilmer dans les contacts, je peux l'appeler directement, ou être appelé directement, contrairement à d'autres solutions où, pour se retrouver, il faut donner une adresse web avec un sorte de salon, etc. Donc c'est quand même une problématique, enfin une fonctionnalité très intéressante. Il y a le partage d'écran dont tu as parlé. Il y a aussi l'aspect messagerie textuelle. Je faisais des tests hier justement avec quelqu'un qui fonctionnait. Ensuite, on a continué en messagerie textuelle. Je voudrais revenir sur un point qui, quand j'ai fait mes tests, m'a questionné, parce que je ne maîtrise pas du tout la technologie qui est derrière. Et c'est ce qu'a évoqué un petit peu au début Cyril Béraud, c'est sur OpenDHT, qui est la table de hachage. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas un serveur central qui gère l'ensemble des personnes ayant un compte Jamie, parce qu'on va créer, on va dire que quand on se crée un compte Jamie, c'est en local sur son appareil. Comment fonctionne cet annuaire décentralisé en essayant d'être le plus compréhensible possible?
Oui, je vais essayer. Sur le DHT, sur le système distribué, on est identifié par ce qu'on appelle techniquement un hash, c'est une chaîne de caractères de 40 caractères, de 40 chiffres, comme un numéro de téléphone, mais évidemment, comme c'est 40 caractères, c'est pas utilisable par un humain. Mais on peut d'ailleurs se communiquer entre soi juste en utilisant cet identifiant de 40 caractères sans s'inscrire dans un annuaire. Mais on a voulu fournir un annuaire sur le même principe qui allait pouvoir fonctionner, je dirais, sans même savoir faire Linux, spontanément, tout seul. Et on a mis en place une blockchain sur laquelle on va associer un nom d'utilisateur, Christophe Wilmer, Cyril Béraud, Frédéric, et à cette fameuse chaîne de caractères de 40 caractères. Ce qui fait que et cette blockchain va être chaque transaction va être validée par tous les acteurs de la blockchain. Ce qui rend cet annuaire comme un annuaire déterministe non réversible et qui ne dépend pas de savoir-faire Linux. Ce qui fait que lorsque tu vas rencontrer quelqu'un dans une soirée ou dans la rue, tu vas lui dire mon identifiant de Jamie c'est Frédéric. Eh bien on va aller sur l'annuaire de la blockchain. À partir de ce nom Frédéric, on va récupérer cet identifiant de 40 caractères. Et la personne peut être certaine, parce que c'est garanti par tous les acteurs qui vont signer la transaction sur la blockchain, ton interlocuteur va être garanti que s'il tape Frédéric, c'est bien à toi qu'il va s'adresser. Alors je ne sais pas si je vais expliquer clairement les choses. Je pense que les gars techniques vont me comprendre tout de suite.
Ça, c'est pas forcément évident à expliquer, effectivement, mais le point essentiel, c'est qu'effectivement, il y a cette certitude de savoir que c'est le bon correspondant et que ça ne dépend pas d'un serveur central et qu'on peut même imaginer que ça fonctionne sur un réseau privé, par exemple, d'entreprise.
Oui,
ou de collectivité. C'est peut-être une. Oui, vas-y, Cyril.
Non, mais c'est une propriété qui est très très forte des systèmes distribués. C'est que OpenDHT va fonctionner sans Internet. Pour donner un exemple, je sais que ça frappe, cet énoncé frappe les esprits. Imaginons que j'ai une connexion sur un paquebot Internet, j'ai un lien satellitaire. Le lien satellitaire tombe. Eh bien, tous les gens du bateau vont pouvoir continuer à utiliser le Jamie. Le système distribué va se recroqueviller sur le réseau réseau du bateau, et une fois que la connexion sera réouverte, va pouvoir tout de suite réintégrer le réseau distribué principal. Donc ça a vraiment une propriété qui est extrêmement forte, c'est-à-dire que même dans des endroits confinés notamment, ou un petit village avec une connexion très faible, eh bien si elle perd cette connexion, les gens du village vont pouvoir continuer à fonctionner. Pour prendre d'autres exemples, on travaille avec le secteur minier à Montréal. Une mine dans le Grand Nord, c'est tout un village, c'est des connexions satellitaires. La connexion satellitaire tombe, eh bien tous les gens de la mine vont pouvoir continuer à fonctionner avec le système de communication. Le système distribué va tout simplement se recroqueviller sur lui-même, continuer à fonctionner, et dès qu'il a une ouverture sur une autre partie du réseau, il va se rendre sur cette partie du réseau.
D'accord. Alors on va un peu avancer parce que le temps passe super vite, mais on aura l'occasion de vous réinviter, je vous le dis tout de suite, pour parler de Jamie et aussi pour parler du logiciel libre au Québec et compagnie, parce que sur un sujet beaucoup plus long. Mais quand même, petite question. Donc Jamie a été initié par Savoir-Faire Linux. Alors aujourd'hui, qui développe Jamie? Est-ce que c'est toujours uniquement Savoir-Faire Linux ou est-ce que vous avez des contributions externes? Et deuxième question, à partir du moment où finalement on peut utiliser Jamie sans Savoir-Faire Linux, est-ce que derrière vous avez un modèle économique pour le développement de Jamie? Ou c'est un développement qui est fait en dehors, on dirait, de toute recherche de retour sur investissement, si je pourrais dire, si j'aime pas beaucoup ce terme. Peut-être Christophe Villemer sur cette partie.
Oui, mais Cyril pourra compléter sur la partie modèle d'affaires, et puis je laisserai Cyril répondre à l'autre. On a un modèle d'affaires effectivement lié à, tu as commencé à en parler Frédéric, à ce qu'on a appelé JAMS, en fait, qui est un serveur qui va permettre justement d'intégrer un pool de clients Jamie dans une organisation. C'est-à-dire que au lieu de connecter les comptes à travers l'annuaire blockchain public, eh ben on va pouvoir connecter les comptes à travers une PKI d'entreprise, un annuaire LDAP, un Active Directory. Donc on a développé JAMS, qui est Jamie Account Management Server, qui va permettre ça. Et là on a à travers ce serveur-là, pour lequel il y a une version qui est disponible sur GitHub et sur notre site, on opposera un peu à modèle d'affaires Red Hat une version supportée avec le soutien technique et puis et mise à jour de sécurité. Donc avec un coût d'entrée qui est assez bas, et ça c'est le modèle d'affaires qui est en cours. On a un store qui va permettre d'acheter ces souscriptions en ligne qui devraient sortir, on l'espère, au mois de mai.
D'accord, super. Cyril, tu veux compléter sur cette partie
Écoute, actuellement, Jamie. Alors, Jamie, c'est quand même juste les composants de base que c'est GNU TLS, c'est FFmpeg, c'est PGSIP et d'innombrables sous-librairies qui sont gérées par la communauté. Donc, c'est vraiment un projet qui est très large là, en termes de qui utilise tous les composants libres principaux. C'est aussi une équipe presque d'une dizaine de développeurs actuellement, une dizaine de personnes qui travaillent soit sur la commercialisation, soit sur le développement. Essentiellement Savoir-Faire Linux, on a beaucoup de contributions, on a 2-3 contributeurs externes qui sont significatives. C'est beaucoup de relations avec l'équipe de FFmpeg, avec l'équipe notamment de PGSIP, avec qui on a créé des liens très étroits. Donc c'est vraiment un projet, on peut dire, libre au sens pur du terme. J'aimerais compléter quand même un projet. Alors là, c'est presque de la philosophie du libre. Un logiciel libre, le modèle économique doit marcher. Donc nous, celui qu'on a repris, c'est celui de Red Hat. Donc Jamie sera toujours distribué sous licence GPL V3 plus, pour être précis, mais on va offrir des services à des organisations qui veulent avoir du support sur les composants logiciels qu'on fournit.
Alors on va préciser que la GPL V3 c'est la General Public License, d'ailleurs du projet GNU, qui garantit que c'est un logiciel libre et que les versions modifiées vont rester libres. Parmi les logiciels que tu as cités, on mettra les références sur le site de Cause Commune, causecommune.fr, dans la page consacrée à l'émission, et sur le site de l'April, parce que tu as cité plusieurs logiciels, dont FFmpeg est un outil qu'on utilise beaucoup pour le traitement audio et vidéo. Mais il nous reste vraiment quelques minutes. J'ai rappelé déjà aux personnes qui écoutent l'émission que si vous voulez tester Jamie, le site web c'est jamie.fr. .net, donc Jamie c'est J-A-M-I, c'est disponible sur toutes les plateformes a priori, hein, macOS, Windows, système GNU Linux, Android, et je crois il y a aussi iOS, donc n'hésitez pas à le tester.
Oui, et Android TV également, là c'est une petite niche, ceux qui ont une console Android TV Nvidia qui supporte des caméras, c'est probablement la seule solution qui permet de faire de la vidéo de salon familial.
D'accord. Alors, il nous reste 2-3 minutes maximum. Alors, première question rapide. Est-ce qu'avec le confinement, vous avez noté une montée en puissance de l'intérêt pour Jamie?
C'est certain. On a, depuis le mois de mars, on a vécu sur mars et avril une augmentation de quasiment 10 fois les téléchargements que nous avons sur Jamie.net. Et on a vraiment suivi la courbe de confinement des pays, donc il y a eu l'Italie, l'Allemagne, la France, les États-Unis, donc ça a été depuis mars et avril on est à quasiment plus 500-600% de téléchargement, et je dirais les zones principales de téléchargement et aujourd'hui d'utilisation de Jamie sont la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Russie notamment et l'Iran.
D'accord. En une minute, Cyril ou Christophe, quelles sont les évolutions à venir pour Jamie dans les mois ou les années à venir?
Alors, l'entreprise Sora Phoenix va investir beaucoup et est en train d'investir beaucoup et accélérer là, le développement de Jamie. Là, les premiers retours, je dirais, du marché sont extrêmement favorables. La crise actuelle a accéléré aussi toute une série de collaborations. Voilà, je peux vous annoncer qu'on vient de recevoir un soutien du Centre National de Recherche du Canada qui va nous permettre de financer pas mal de gros composants essentiels pour Jamie. Donc, c'est ça. Donc là, ça va probablement, ça va être un composant qui va propulser l'entreprise là, dans les années à venir.
D'accord. Et Christophe,
pour être le groupe chat, en fait, c'est un des composants importants qui manque aujourd'hui, qui est en forte demande pour les usages. La réalité de pourquoi aujourd'hui il n'est pas prêt, c'est qu'un groupe chat décentralisé est vraiment sécurisé.
Explique en français ce qu'est un groupe chat, s'il te plaît.
Oui, un salon de discussion.
Oui, merci.
Oui, ça c'est un des gros enjeux. Comme je sais que c'est la fin de l'émission, je me précipite.
Vas-y.
Le groupe chat, effectivement, la collaboration, faire de Jamie qui était initialement pensé comme un système pair à pair, on veut développer tous les composants distribués pour le travail collaboratif. Donc, on va améliorer les performances des conférences. On devrait être capable d'arriver à 12, 24 peut-être participants à des conférences, à un système de groupe chat de conversation de groupe. Efficace, qui probablement au mois de septembre. J'aimerais envoyer un petit message à la communauté. On recherche de l'expertise. Si vous êtes des développeurs pointus, C++, n'hésitez pas à nous contacter. On cherche de l'aide et on cherche à augmenter notre équipe. Voilà.
Merci Cyril. Est-ce qu'en 15 secondes, tu voulais ajouter quelque chose, Christophe?
Non, c'est bon, on vous remercie, puis on souhaite une bonne fin de confinement à tous.
Écoutez, je vous remercie, on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau dans l'émission très bientôt. Donc c'était Cyril Béraud, président de Savoir-Faire Linux, Christophe Villemer, vice-président de Savoir-Faire Linux, donc Savoir-Faire Linux et savoirfairelinuxtoutattaché.com, et on parlait donc de Jamie, logiciel libre de téléphonie, messagerie instantanée, partage d'écran, c'est donc Jamie.net, Jamie.net, et toutes les références vous les retrouverez sur causecommune.fm et sur april.org, et je repasse la parole à mon camarade Étienne Gonu.
Merci Fred. On te retrouve demain, je crois, pour une émission spéciale sur les musiques libres à vous. 13h.
Tout à fait, 13h avec Valentin et Baptiste. On diffusera des musiques libres commentées par Valentin et Baptiste, donc à 13h.
Eh ben, bonne fin de journée. Merci pour cet échange.